Bonjour à tous. Ce matin, ça bougeait la première heure. On a eu une alarme. L'alarme est partie ce matin, la première heure. Donc, on s'inquiétait un peu c'était quoi, mais finalement, c'était juste le garage qui a commencé à sonner. Donc, c'était correct. Ça a fait quelques nerveux, évidemment. C'est toujours inquiétant. On se demande toujours c'est quoi ces alarmes-là. Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez l'émission « Les anges de la rénovation ». Vous connaissez cette gang-là, cette belle gang-là qui font du beau travail. Ils vont finalement rentrer dans une ville, ils vont choisir des familles. Et ce qu'ils vont faire finalement, ils vont prendre une famille qui est démunie, qui a de la difficulté, pas capable de rénover, de rebâtir leur maison, qui est vraiment en train qui est défraîchie, qui a besoin de réno et d'embellissement. Et puis, ils vont choisir des familles comme ça, démunies, puis ils vont rentrer là avec toute leur équipe. Puis, dans un temps vraiment record, avec des ressources extraordinaires, ils rentrent là, puis en l'espace de quelques jours à peine, ils rebâtissent là, vraiment un chef-d'œuvre. C'est tout à fait un chef-d'œuvre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir les émissions, là, mais c'est incroyable. Et le moment, l'apogée de l'émission arrive vraiment quand il y a un autobus qui est juste devant la maison, qui est produit, qui est toute finie, qui est toute prête. Et la famille arrive dans une limousine, c'est tout caché, les vitres sont teintées, on voit pas à l'extérieur, ils ont aucune idée de ce que ça a de l'air. Puis ils arrivent là devant ce grand autobus, ils sortent, puis ils demandent est-ce que vous êtes prêtes. Et là, à un moment juste approprié, il y a toute la foule qui est là, qui est venue, plusieurs bénévoles sont venus aider, des centaines de personnes, parfois même des milliers de personnes. Tout le monde est là, puis le moment précis, c'est quoi? Move that bus. Hein, c'est quoi en français? Qu'est-ce qu'ils disent en français? Ouais, c'est. OK. Probablement au Québec, on dirait ça. Move the bus, ouais. Aïe, aïe, aïe. Là, l'autobus avance, et puis toute la famille, tout d'un coup, là, waouh, ils voient ça. Et puis là, la caméra les suit, là, tu sais, ils rentrent, ils font quelques pas, puis ils rentrent dans la maison quand tu ouvres la porte. Mon ami, c'est un chef-d'œuvre, le design, c'est tellement beau. Puis ils font des chefs-d'œuvre avec des riens. Ils vont prendre même des restes de la première maison, délabrés, puis ils vont faire quelque chose de tout à fait extraordinaire. Eh bien, c'est Ty, celui que vous voyez au centre là, avec les plans architecture, l'architecte. Ty et son équipe qui y travaillent. C'est vraiment, ça a été un beau succès aux États-Unis. Ça joue encore. C'est peut-être, je sais pas si c'est aussi, probablement un peu moins. Il y a tellement de compétition dans les médias. Mais en anglais, le titre en anglais de l'émission, ça s'appelle Extreme Makeover Home Edition. Extreme Makeover Home Edition. Bon, oui, en français, ça s'appelle les anges de la rénovation, et on peut comprendre pourquoi. Hein? C'est un terme affectueux. Ces gens-là qui viennent comme des anges aider, soulager ces gens qui ont de la difficulté, qui sont démunis. Mais vraiment, le terme en anglais, c'est vraiment Extreme Makeover Home Edition, qu'on pourrait traduire littéralement, si on voulait faire une traduction littérale, là, coller mot à mot, ce serait Transformation Extrême Édition Domicile. Eh bien, cette émission-là me fait vraiment penser à ce que le Seigneur est en train de faire avec notre vie. Notre vie qui est délabrée, on est pécheurs depuis la chute, on est brisé, défraîchi, et on a besoin d'aide, et nous sommes vraiment spirituellement pauvres, démunis, et on ne peut rien faire par nous-mêmes. Dieu, de son côté, voit l'homme, voit la femme, ils sont perdus, alors il envoie son fils sur la terre, Jésus-Christ, incarné un homme, il vient, puis il fait une transformation tout à fait extraordinaire, inimaginable, de nos vies. Et ça, c'est l'Évangile, la beauté de l'Évangile, lorsque Jésus est allé à la croix, prendre sur lui nos péchés, nos manquements et nos fautes, notre rébellion, pour finalement nous transmettre la justice lorsque nous plaçons notre foi en lui. Eh bien, dans le passage que nous avons commencé à voir dimanche passé, que nous sommes en train de voir, on regarde la famille. On a commencé la semaine dernière en regardant le couple. Et nous sommes vraiment en train de voir une transformation extrême, édition domicile. Parce que c'est vraiment ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec nos foyers. Nous sommes en train de regarder cette transformation extrême que le Saint-Esprit est en train d'accomplir chez les membres chrétiennes, les familles chrétiennes Le Saint-Esprit est en train justement de recréer de nouvelles familles, recréer un nouveau mariage. Il est en train de rénover notre domicile, tranquillement. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est une rénovation extrême. On a déjà regardé le mariage la semaine dernière, et on a dit que aussi important que la première journée puisse être du mariage, c'est vraiment une journée là tout à fait splendide, où il y a la robe de mariée, on fait un paquet de préparatifs, on prend des cours de préparation mariale, puis on se prépare pour cette journée-là, le jour J, là, c'est vraiment la journée, l'une des plus belles du mariage, la première journée. Mais on a dit la semaine dernière, et c'est le message que nous avons vu dans Éphésiens, que finalement, la journée la plus importante du mariage n'est pas la première, mais la dernière. Alors qu'on se prépare tous les deux, et c'est la vision que nous avons d'Éphésiens 5, nous sommes en train de nous investir l'un dans l'autre, ma femme et moi, on est en train de s'investir, vous et votre conjoint, vous êtes en train de vous préparer et ressembler davantage à Jésus-Christ. Pour ce grand jour où tous les deux, on regarde le même horizon, on regarde le trône qui s'en vient, on regarde Jésus-Christ qui est là, et on s'en va vers là, et la dernière journée, nous serons devant lui. Et nous espérons tous les deux, si on est les enfants de Dieu, nous serons là tous les deux, et on aura été préparés par la puissance du Saint-Esprit pour ce grand jour. Ça ne s'arrête pas là, ça continue pour chaque membre de la famille, ce travail continue au sein du foyer. Alors, notre mission comme conjoint, c'est vraiment de nous aider l'un l'autre à grandir et devenir de plus en plus comme Jésus-Christ. Et ça, c'est la vision du mariage, la mission du mariage. Et comment on accomplit ça? Et c'est en étant un serviteur de mon conjoint. Je veux être un serviteur pour mon conjoint et aussi je veux être le meilleur ami spirituel de mon conjoint. C'est comme ça qu'on va se bâtir des foyers qui vont ressembler davantage à Jésus-Christ. C'est la façon qu'on va grandir. Mais dans le foyer, il y a d'autres personnes. Il y a parfois des enfants. Et à l'époque du Nouveau Testament, il y avait même des esclaves, qu'on va voir qui sont différents d'aujourd'hui. Les esclaves de l'époque du Nouveau Testament n'est pas du tout comme aujourd'hui. Ce n'était pas une question raciale. Parfois, c'était juste parce que tu devais de l'argent, alors tu choisissais de devenir esclave, parce que le maître était gentil, c'était un gentilhomme. Il pouvait te donner une éducation, donner un métier. Et d'ailleurs, une bonne partie des esclaves devenaient libres à 30 ans. Et ils pouvaient s'acheter des maisons et tout ça. Et ils devenaient même des partenaires financiers avec les propriétaires, avec les anciens maîtres. Donc, c'est vraiment différent, là. Mais le Saint-Esprit veut faire une transformation extrême, là aussi, au sein de notre ménage, notre foyer, sous notre toit. Il veut recréer le mariage, recréer aussi la famille, les parents. Il veut changer aussi notre travail, notre vision du travail, avoir une vision chrétienne de notre job. Et ça, c'est très important, on va le voir ici. On va aller voir donc cette transformation extrême, si vous voulez bien. Édition domicile, en tournant dans Éphésiens chapitre 6, on va voir ce que Dieu dit sur la famille. Éphésiens chapitre 6. On va lire les versets 1 jusqu'au verset 9. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents. Ah, ça, j'aime tellement ça, dire ça, ces versets-là, à mes enfants. Ah, ça, c'est mon verset favori comme père. Ah, j'aimais ça. Regarde, ça dit quoi? Regarde, enfants, obéis à ton papa. Hein? Mon verset favori. OK, ouais, c'est vrai. Ça continue, ouais. Ah, d'accord, c'est mon fun. Ouais, c'est vrai. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Un autre beau verset aussi. Hein? Très bien, tellement beau. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Esclaves ou serviteurs, employés, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ, qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes. sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Quant à vous, maître, agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, est dans le ciel, et le vôtre est dans le ciel, et que devant lui, il n'a point de favoritisme. Et prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons nous pencher et regarder ce que ton esprit nous divulgue sur la vision de notre carrière, la vision de notre travail, et surtout la vision pour la famille. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses nous aider à être de meilleurs papas, meilleures mamans, meilleurs enfants, de meilleurs employés et de meilleurs employeurs par la puissance de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Eh bien, le passage va s'adresser à quatre groupes de personnes. Cinq, en fait, si on ajoute le couple marié qu'on a regardé la semaine dernière. Mais juste ici, là, on va se concentrer sur quatre. Premièrement, il y a un message aux enfants, versets 1 à 3. Il y a un message aux parents, verset 4. Et il y a un message aux employés, versets 5 à 8. Et il y a un message aux patrons, verset 9. Maintenant, à travers tous les groupes, il y a un thème qui va revenir, qui ressort de tous ces groupes-là, quel que soit le groupe à qui on va parler. Il y a quelque chose qui ressort. Et je vais essayer de vous le montrer en vous lisant un peu les versets. Premièrement, aux enfants. Lorsque Paul s'adresse aux enfants, il dit, verset 1, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Aux parents, il est dit au verset 4, « Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Aux employés même, verset 5, il dit, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Non pas seulement sous leurs yeux, mais comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Au patron et vous, maître, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui n'y a point de favoritisme. Alors, selon le Seigneur, serviteur de Christ, notre employeur, notre maître. Alors, qu'est-ce que ça laisse entendre? C'est que nous travaillons tous, ultimement, pour le Seigneur Jésus-Christ. Tous. Le message est bien clair. Même si les enfants doivent obéir et honorer les parents, si les parents doivent enseigner leurs enfants, si les employés travaillent pour son patron et l'employeur dirige les employés, au bout du compte, ultimement, ce que le message est en train de nous donner ici, et la vision que nous avons besoin tous d'avoir, c'est que nous travaillons pour Jésus. Maintenant, comment travaillons-nous pour le Seigneur dans chacun de ces groupes-là? Commençons avec les enfants. Les enfants servent le Seigneur en obéissant et en honorant leurs parents. Enfants, verset 1, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Ce que Dieu dit aux enfants, c'est d'obéir et d'honorer leurs parents. Maintenant, il faut comprendre ici que ce sont des enfants un peu plus vieux aussi. Alors, on prend pour acquis, évidemment, lorsque tu es jeune, enfant, on veut leur inculquer l'obéissance et l'instruction, absolument. Mais ici, ça va s'adresser plus particulièrement quand tu vieillis aussi. On va voir pourquoi dans un instant. Alors, honore ton père et ta mère. Paul va citer finalement un verset qui vient des 10 commandements. Honore ton père et ta mère, c'est un des 10 commandements. En fait, quand on regarde les 10 commandements que nous avons dans l'Ancien Testament, on découvre que, dans le fond, c'est un sommaire de ce que tout être humain devrait être. Les 10 commandements sont la charpente, les poutres d'acier d'un immense édifice. C'est l'architecture métallique, les poutres d'acier auxquelles tout le reste va s'attacher. Par exemple, si on est pour regarder les gratte-ciels, je n'ai jamais compris comment ça qu'on fait ça haut de même. Il me semble qu'il y a quelque chose en nous qui nous fait dire « Je ne devrais pas rester en haut de ça, moi. » Il y a quelque chose d'anormal, ça ne marche pas, cette affaire. Mais des gratte-ciels à Dubaï, dans ce cas-ci, ce que ça prend, c'est des méchantes poutres d'acier qui tiennent tout ça. Et avant, quand tu vas construire ces bâtiments-là, tu vas t'assurer d'avoir une bonne structure métallique. Avant et après ça, tu remplis et tu couvres. Les 10 commandements sont la structure métallique de notre société. Et c'est ça que le Seigneur est en train de nous laisser entendre par des commandements. Après ça, on construit. On construit notre vie, on construit la société, si on veut qu'elle devienne prospère, juste et civilisée. On va bâtir ça sur la charpente métallique d'acier, dans le fond, qui est, ce sont les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Fais partie de cette structure-là, qui est importante, majeure, pour la société, pour qu'elle tienne. Et honore ton père et ta mère, c'est le seul commandement où il est question d'autorité. Probablement parce que Dieu sait que si on honore nos parents, le reste va tomber en place. Et pourquoi honorer nos parents? Pourquoi bien traiter nos parents? Pourquoi respecter l'autorité, au fond? Bien, l'apôtre Paul répond en disant, parce que c'est juste. C'est juste qu'il en soit ainsi. C'est bon pour la société qu'il en soit ainsi. C'est une question d'autorité. On a besoin d'autorité. Que serait finalement un orchestre sans conducteur, sans leader? Ça serait cacophonique. On n'aurait pas une symphonie. Ça prend un directeur. Même s'il était parfait, tu as besoin de te ranger sous l'autorité. Et c'est comme ça que la société fonctionne. On pense aux écoles, les structures. C'est construit en fonction de l'autorité. Même si c'est pas parfait, même s'il y a des failles, et certainement on sait que comme parents, on va faire bien des erreurs. On le sait. Mais savez-vous que même s'il y a des failles, avoir une autorité qui est même déficiente, c'est encore mieux que pas de n'avoir du tout. Et c'est ce qu'a découvert le sociologue, en fait c'est un des fondateurs de la sociologie moderne, Emile Durkheim. Il dit ceci. Il explique que l'absence d'autorité a des conséquences plus néfastes que d'avoir une autorité parentale qui est déficiente. Avoir une autorité parentale déficiente, ben oui, ça va avoir des conséquences, mais l'enfant va vieillir. Sachant que le bien et le mal existent, ils vont simplement dire, bon, écoute, moi je vais essayer de faire mieux, franchement, j'ai pas eu un beau modèle dans la maison. Je vais essayer de faire mieux. On va découvrir c'est quoi ce qui est bien, ce qui est mal, puis on va essayer d'inculquer ça à nos enfants mieux que mes parents l'ont fait. Mais lorsqu'il y a une absence d'autorité, c'est le contraire. Ils ne croient même pas au bien et au mal. Ça, c'est les dégâts, les conséquences que de ne pas avoir d'autorité du tout, selon les recherches sérieuses de ce sociologue Durkheim. D'ailleurs, il s'est spécialisé dans le suicide. Il a même écrit un livre sur le suicide. Et il arrive même à la conclusion, il a vu des traces, il a vu vraiment la cause à effet, il a vu un lien entre les suicides et le manque d'autorité. Pas toujours, mais il a certainement vu ici quelque chose ressortir. Donc c'est pire pour la société de ne pas avoir l'autorité. L'autorité parentale, même médiocre, fournit donc une structure morale. Maintenant, on comprend qu'il y a des exagérations, il y a des abus. Et ça, c'est illégal. On ne parle pas de ça ici. C'est sûr qu'il y a des parents qui sont vraiment là. Il faut même protéger les enfants de ces parents-là. On va les placer des fois dans les maisons d'accueil et tout ça. Et on comprend ça. On ne parle pas de ça ici. On parle vraiment des parents là qui sont faillibles, qui ne sont pas parfaits, vont faire des erreurs. C'est mieux d'avoir une autorité qui est déficiente. C'est que pas d'en avoir du tout. Alors, on a besoin de nous ranger sous l'autorité de nos parents parce que cette autorité-là nous vient de Dieu. Elle est inculquée, elle est donnée, transmise, déléguée par Dieu lui-même, qui est le Créateur. Et les parents sont donc les premiers représentants de leur morale. Ils nous enseignent, ils nous instruisent. La Bible dit, c'est juste qu'il en soit ainsi. C'est comme ça que ça fonctionne et que ça doit fonctionner. Notre société dépend de ça. Sans ça, c'est le désordre. Et c'est pour cette raison que Dieu dit, honore ton père et ta mère. Parce que si on ne le fait pas, ça va être le désordre. Nous connaissons, si on ne connaît pas les frères Grimm, on connaît certainement les contes, plusieurs contes, des centaines, même je pense 200 quelques contes des frères Grimm. On connaît Blanche-Neige, Hansel et Gretel, Tom Pouce, Cendrillon, Le Petit Chaperon Rouge, La Belle et Brouet Dormant, plusieurs collections des contes Grimm, des frères Grimm en fait. Et ça s'élève maintenant à 211 contes, mais un des contes qui est vraiment pas tellement connu, qu'on entend moins parler, c'est l'histoire d'un vieil homme. D'un homme qui se fait vieillissant, évidemment, puis il devient de plus en plus sénile, il souffre de démence de plus en plus. Il reste chez son fils, qui est marié, Les deux, son fils et la femme, sa femme, a un petit enfant qui est à la maison, un petit garçon. Et là, le monsieur mange, et puis chaque fois qu'il arrive au souper, parce qu'il souffre de démence, un peu sénile, chaque fois qu'il y a un repas, malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'il l'échappe, et c'est vraiment, là, c'est épouvantable à la maison, là, c'est les assiettes à terre, la nourriture sur lui, ou sur la table, et tout ça. Et la fille, elle n'a pas mal là, là. La belle fille, là, elle n'a pas mal comme là, là. Puis ça fait quelque temps qu'elle essaie de monter son mari contre son père. Et vraiment, elle essaie de le convaincre que d'avoir lui dans sa maison, c'est vraiment un fardeau, c'est nuisible, ça dérange. Vraiment, là, c'est fatigant. Un soir, effectivement, le père, le monsieur, échappe une assiette sur lui, puis c'était affreux. Et là, Anne-Navette n'était plus capable. Là, elle se lève, elle dit, « Là, là, c'est assez. Là, j'en peux plus, c'est assez. » Alors, elle se lève, elle prend le bras du père, elle l'emmène dans l'autre pièce, dans le coin, avec un petit bol en céramique, avec un gruau dedans, puis elle dit, « Dorénavant, tu vas manger là, dans le coin de la pièce, tout seul. » Alors là, elle revient dans l'autre pièce, puis là, les jours passent. Comme de fait, le père est dans l'autre pièce, mange son souper, échappe le bol de céramique à terre, brise en morceaux. Et là, là, tiens, une crise. Elle ne tient, c'est assez. Elle dit, tu veux manger comme un porc, comme un cochon? Ah ben, tu vas manger comme un porc. Alors, elle sort dehors, il restait sur une ferme, rentre dans la grange, va chercher un abreuvoir pour les porcs. Elle prend l'abreuvoir, elle l'emmène dans la maison, l'emmène, l'assit là, met l'abreuvoir devant le père, met de la nourriture dedans, puis elle dit, à partir de maintenant, tu vas manger dans cet abreuvoir-là à cochon. Tu veux manger comme un porc, tu vas manger comme un porc. Là, elle s'en va. Les jours passent, les jours passent. Tout d'un coup, le couple remarque que leur petit-fils est en train d'avoir un morceau de bois, puis est en train de vraiment de sculpter du bois. Alors, les parents, ils regardent le petit garçon, ils disent, « Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de construire quelque chose? En train de faire de quoi? » Et là, le petit gars regarde la mère, toute fière, ben, il dit, « Oui, maman, oui, papa. » Et je suis en train de faire un abreuvoir, puis quand je serai plus vieux, vous autres, vous allez être vieux, il dit, « Je vais vous faire nourrir, je vais vous nourrir dans cet abreuvoir-là. » Là, le couple, complètement en silence, a arrêté de parler. Pas un mot. Ils se sont regardés. Pas un mot. Et là, le fils a commencé à réfléchir et se souvenir à tous les beaux souvenirs qu'il avait oubliés de son père, ces beaux moments-là tendres avec son père lorsqu'il jouait avec son père. Et les deux se sont regardés, puis ils ont commencé à pleurer. Puis ils sont allés voir le père, ils l'ont pris. Ils ont sorti de sa chaise, ils l'ont mis dans l'autre pièce, dans la salle à dîner. Ils ont choisi la plus belle chaise, la chaise la plus confortable. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus jamais, jamais eu de chicane à son égard. Honorer ses parents enseigne qu'une société qui détruit la famille se détruit. Si tu élimines l'honneur dans une famille, tu élimines l'honneur. Éphésiens 6 dit ceci, « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » C'est ça la société qui détruit la famille, se détruit. Et la Bible nous demande d'honorer nos parents, car ils constituent les premiers représentants de l'ordre moral dans notre vie, institué par Dieu. Il représente l'autorité de Dieu. Alors, comment on fait ça? Comment on honore nos parents? Bien, il y a de plusieurs manières, évidemment. Il y en a qui sont, c'est intuitif, on le ressent, on le sait. Mais laissez-moi vous en nommer quelques-uns ici. Premièrement, on honore nos parents en les prenant au sérieux. C'est vraiment intéressant, le mot de commandement, c'est un mot hébreu, originalement, lorsque ça a été donné, les 10 commandements. Et à la racine, le mot veut dire pesant. Pesant, lourd. En d'autres mots, ne prends pas tes parents à la légère. Donne-leur de la place, l'eau, qu'ils en prennent la place. C'est correct. T'honores tes parents en les prenant au sérieux. Certains vont dire, « Ah, tu ne connais pas mes parents, bon sang. » Et ce qu'il faut dire ici, c'est qu'il y a vraiment une différence entre admirer et honorer. C'est pas la même chose. Oui, c'est sûr qu'il y a des parents qui ne sont pas admirables. Ils font des choses, des bêtises et tout ça, et sont même dangereux pour leurs enfants. On comprend ça. Mais on peut quand même les honorer. Et Dieu nous demande de les honorer quand même. Et c'est pas comme admirer. On honore les parents en les prenant au sérieux. Les honorer, on les honore aussi, non seulement en les prenant au sérieux, mais en les pardonnant, leurs fautes, leurs manquements, leurs gaffes. Moi, ça a été un moment vraiment précieux. Précieux. J'ai la misère à en parler sans... je me suis abstenu d'en parler au premier service parce que ma fille était là. Je ne voulais pas la mettre mal à l'aise. Et la connaissant, elle était très mal à l'aise. Mais je me rappelle d'un moment vraiment précieux. J'ai souvent demandé pardon à mes enfants pour des bêtises que j'ai faites, des gaffes. Mais il y a une fois, ma fille était avec son... Elle est venue me voir. Puis elle m'a demandé pardon et tout ça. Et moi, à mon tour, j'ai voulu vraiment lui demander pardon. Pardon. Je dis, bon sang, j'aurais aimé, je suis loin d'être parfait, mais j'aurais tellement aimé être comme je suis aujourd'hui. J'étais tellement légaliste autrefois, tout ça. Pauvre eux autres. Puis c'est pire quand t'es piqué. Connais ça les piqués? Est-ce que quelqu'un connaît ça les piqués? Pastor's Kids? Ouais, je le dis. On dit que c'est pire. Tous les jeunes ont de la difficulté, des défis. Là, mais je me rappelle un moment pas mal solennel où j'ai demandé pardon à mes enfants. Et ma fille m'a regardé et a dit, « Papa, je te pardonne. » T'as fait pardonner, t'as fait dire, « Je te pardonne. » On aurait dit que c'était comme quelque chose, c'est comme essuyé comme une sorte de dette. Là. C'était comme réglé, c'était fini. Elle avait besoin de ça, moi j'avais besoin de ça. Des fois, on a besoin, comme parents, de demander pardon à nos enfants. Nos enfants aussi, parfois, ont besoin de demander pardon aux parents. On les honore en demandant, en pardonnant leurs manquements. On les honore aussi en les soutenant financièrement aux besoins. On comprend qu'aujourd'hui, c'est un peu différent d'autrefois. Dans le temps du Nouveau Testament, il n'y avait pas vraiment de REER, pas de plan de pension, comme on l'a aujourd'hui. Le contexte est différent aujourd'hui. Mais tu veux être sensible à ça, tu veux écouter les besoins, tu veux savoir est-ce qu'il y a des besoins financiers, tout ça. Tu veux être sensible, tu veux les aider, les accompagner dans le vieillissement. Et c'est une façon de les honorer, d'être sensible à leurs besoins, de s'assurer que tout est correct. À l'époque du Nouveau Testament, c'était la loi. Il fallait soutenir financièrement nos parents. C'était comme ça. Honorer les parents voulait dire dans le Nouveau Testament, à l'époque, c'était de les soutenir financièrement aussi. C'était la loi. Tu te faisais poursuivre en justice si tu ne te soutenais pas tes parents financièrement. D'ailleurs, si tu postulais pour avoir un job au gouvernement, tu voulais devenir un fonctionnaire, dans l'entrevue, on te demandait est-ce que tu soutiens financièrement tes parents? Ça faisait partie des critères, ça, d'embauche, de soutenir financièrement les parents. Maintenant, heureusement, aujourd'hui, bon, là, il y a tous des plans et tout ça qui nous aident à bâtir une retraite, etc. Mais ça fait rien, tu veux rester sensible aussi. Tu veux être sûr, est-ce que tout est correct? Et c'est ce que Paul dit dans 1 Timothée 5,8, lorsqu'il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Principalement, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et je vous ai mentionné la semaine dernière toute cette dimension-là de la proximité morale, que plus on approche de chez nous, plus j'ai une obligation morale à pourvoir aux besoins de ma famille. Et ça parle financièrement, en passant, dans ce passage-là dans Timothée. On les honore en passant du temps avec eux. Mon beau-frère, moi, il joue de la guitare, puis il chante dans des résidences de personnes âgées ici à Gatineau. Puis il a une chance de parler aux employés, puis ce qu'ils disent, ce qu'ils reçoivent, ce qu'ils entendent comme message, c'est mon ami, ça. Il se fait dire par des employés, là, il y a des gens qui sont placés ici par leurs enfants, puis tu ne vois plus les enfants, là. Les années passent, là. Un an, et des fois, ils vont peut-être juste venir faire un petit tour à Noël, là, puis c'est comme un an, puis tu ne les vois jamais, là. Puis ça, c'est s'ils viennent. Il y a des gens qui ont déjà passé 2 ans et plus, là. Ils ne reviennent pas. Passer du temps avec eux autres, ça, c'est une façon de les honorer, de donner du temps. Évidemment, on honore nos parents en les prenant au sérieux, en pardonnant leurs erreurs, en les soutenant aux besoins, en passant du temps avec eux, et en s'assurant d'être à notre tour des filles et des fils de l'ultime Père qui est le Père céleste. Mais non, on n'est pas une religion ici. Puis tu ne veux pas devenir chrétien juste pour faire plaisir à papa et maman. Absolument pas, c'est une erreur, il y a plusieurs l'ont fait. Et c'est délicat. Il y a un miracle dans chaque conversion. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, voici ceci. Quelque chose de vraiment important ici, c'est ton attitude, par exemple. Une façon d'honorer mes parents, c'est s'ils sont chrétiens, puis m'inculquent l'Évangile au sein du foyer. Moi, je ne vais certainement pas balancer ça comme ça du haut de la main, du gars, je ne veux rien savoir de ça, moi, ça ne m'intéresse pas, etc. Non, honorer ses parents, c'est au moins s'arrêter et se poser des questions assez sérieuses. Ça doit être un Dieu assez important pour que sa vie change totalement, puis il va adorer Dieu, il adore Dieu. C'est la personne la plus importante dans sa vie. Je vais au moins m'arrêter par respect pour me questionner sur ce Dieu-là pour apprendre à le connaître. Donc, on parle de l'attitude ici. Parce que les conversions, ça ne se force pas, c'est un miracle. Et tu veux que la personne, ton enfant, soit réfléchi, réfléchisse à ces grandes questions-là. Réfléchir au christianisme, se poser des vraies questions, faire notre investigation plutôt que tout balancer en l'air, avec cette attitude un peu de je m'en foutisse, puis arrogante. Non, là tu n'honores pas tes parents. Alors, comment inculquer ces valeurs à nos enfants? Mais ça commence à la maison quand ils sont jeunes, évidemment. Les parents ont un rôle à jouer, et c'est la raison pour laquelle, au verset 4, maintenant, on s'adresse au père. Ça s'adresse aux deux, dans le fond, maman et papa, mais évidemment, papa, maman et papa, mais papa a un rôle important à jouer. Je pense que Dieu sait que, peut-être le côté maternel, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait qu'il ne s'adresse pas aux mères comme telles? Il y a des différentes raisons culturelles, mais certainement, je pense que c'est un message qui est toujours bon de se rappeler que nous, papa, on a besoin de nous mouiller, de nous impliquer sur l'éducation spirituelle de nos enfants et l'éducation de nos enfants en général. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors, si les enfants servent le Seigneur en obéissant et en honorant leurs parents, les parents, eux autres, servent le Seigneur, en propageant la bonne odeur de l'Évangile dans le foyer. Avez-vous remarqué le verset 4? C'est selon le Seigneur que l'on veut instruire nos enfants. L'idée d'avoir un foyer où l'Évangile est au centre. Lorsqu'on joue avec nos enfants, lorsqu'on communique avec nos enfants, lorsqu'on veut travailler au niveau du cœur, parce que c'est ça que l'Évangile fait, elle s'adresse au cœur. Et c'est uniquement l'Évangile qui peut rejoindre le cœur de nos enfants. On veut enseigner à nos enfants la différence entre le bien et le mal. Évidemment, on a besoin de leur enseigner ce qui est important dans la vie et ce qui l'est moins. Le parent se sert de l'autorité qui lui est confiée par Dieu afin d'élever les enfants, les instruire, les éduquer. On est des leaders serviteurs dans le foyer. On prépare nos enfants pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions à leur tour, de façon intelligente, sage, inspirée par l'Évangile lorsqu'ils vieillissent. Alors, les enfants servent le Seigneur en obéissant, en honorant les parents. Les parents servent le Seigneur en propageant la bonne odeur de l'Évangile dans le foyer. Et les employés servent le Seigneur en étant une bénédiction pour leur employeur. Tu veux être une bénédiction pour ton patron. Verset 5 dit, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Alors ici, on parle de serviteurs, oui, d'esclaves, littéralement. Les familles avaient des esclaves à l'époque, donc on parle de la maison. Alors Paul s'adresse à chaque membre du foyer, dans le fond. Mais c'était un peu comme des employés, comme on l'a dit tantôt. Mais même à ça, la façon que Paul parle des maîtres, tranquillement, ça laissait de moins en moins de place à ce genre d'esclavage-là, même si c'était considéré un peu comme des employés. Et c'est pour disparaître, ce sont finalement même des chrétiens qui se sont battus pour abolir l'esclavage. Mais c'est certainement pas comme en Amérique du Nord. Ce n'est pas une question de racial. D'ailleurs, la forme d'esclavage de l'Amérique du Nord, elle est condamnée catégoriquement dans la Bible. Et la façon que la Bible parle de l'esclavage, on voit bien que Dieu est contre. Paul, d'ailleurs, qualifie de diabolique le commerce d'esclaves, tel qu'il a été pratiqué en Amérique du Nord. On le voit dans 1 Timothée 1, 8 à 10. Dieu manifeste même sa colère lorsque son peuple est esclave dans le pays d'Égypte, et il va même envoyer un jugement, tuer plusieurs Égyptiens. Et c'est de la justice, parce qu'ils sont traités comme des esclaves. Ça démontre clairement que l'esclavage injuste et raciable et lamentable aux yeux de Dieu. Maintenant, on devenait esclave dans le Nouveau Testament pour des raisons économiques. C'était souvent un arrangement pour rembourser une dette. D'ailleurs, certaines personnes se vendaient eux-mêmes en esclavage. Un maître qui était gentil, qui était bienveillant, parce qu'il pouvait profiter d'une meilleure qualité de vie. Il pouvait même avoir une maison, il était une certaine indépendance, il pouvait être des gens d'affaires, en affaires. Et souvent, ils allaient chercher comme un nouveau métier. Et comme je disais tantôt, lorsqu'ils devenaient libres, la plupart des esclaves devenaient libres à l'âge de 30 ans, et ils pouvaient se partir en affaires, puis ils commerçaient avec leur ancien maître, ancien propriétaire. Alors, on peut certainement appliquer les principes qu'on voit ici aux employés, à la notion moderne d'employé. Pas dans le sens, il y a un sens qui c'est vrai que c'était très dur à cause de la chute, le travail, mais on peut l'appliquer comme dans un sens moderne d'employé. Alors, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que le christianisme touche chaque aspect de notre vie, même notre travail. Le christianisme, c'est pas une affaire juste de 24 heures, juste 24 heures qui est le dimanche. C'est 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Le christianisme touche chaque aspect de notre vie. Et le Saint-Esprit change notre façon, comme on l'a vu au chapitre 4, de communiquer. Ça change notre mariage, ça change notre famille, puis ça va changer notre vision aussi de notre job. Quand on est chrétien, on lit en tout temps. Ça va affecter ma façon de me conduire avec les autres employés, avec mon employeur. Ça va changer, ça va affecter aussi comme employeur. Ça va changer ta façon de te conduire avec les autres. Maintenant, quelle est la vision? Quelle est la vision chrétienne du travail? Comment on devrait voir notre job? Eh bien, à notre grande surprise, ce que la Bible dit dans le fond, c'est que notre job est un appel. C'est un appel. En d'autres mots, on ne travaille pas juste pour gagner notre pain. C'est une erreur. C'est vraiment un appel. Verset 7 dit, « Servez-les, ça veut dire vos patrons, avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. » Lorsque tu travailles, tu es en train de servir le Seigneur. Ultimement, c'est lui ton patron. Ton patron, c'est vraiment le Seigneur. Maintenant, ton patron à la compagnie ne le sait pas et ne va pas y dire. Va pas y dire demain matin, là, écoute, mon pasteur me dit que tu n'es pas trop bon boss. Tu gardes ça silence. Mais lorsque ton boss, ton patron vient te voir puis il est un peu dur avec toi et tout ça, en toi, silencieusement, tu le regardes puis tu te dis à toi, là, tu n'es pas mon boss, tu n'es pas mon patron, tu n'es pas mon patron. Non, tu n'es pas mon patron. Tu n'es pas mon patron. Jésus est mon patron. Jésus est mon patron. Ton patron, c'est vraiment le Seigneur. Tu travailles à temps plein pour le Seigneur. Et ça, c'est vital de comprendre ça, les amis. Le travail n'est pas simplement un emploi pour payer des factures, puis c'est de se dépêcher pour arriver à la retraite. Absolument pas. Non, c'est un appel. Tu as reçu un appel de Dieu. Tu es dans le ministère. Dieu t'a confié un ministère. C'est ta job. C'est un appel. D'ailleurs, le mot latin, vocare, signifie appel. Et c'est la racine de notre mot qu'on a pour vocation. Un appel. Et on a besoin de revenir, les amis, à cette vision du travail-là. On a besoin de ça. Chacun de nous, nous avons une vocation, un appel, une mission à accomplir à notre travail pour la gloire de Dieu. Même les réformateurs comme Luther, Calvin, disaient que tout travail, quel qu'il soit, séculier ou pas, est un appel de Dieu au même titre que l'appel pour devenir un prêtre. Même chose. Les luthériens ont même avancé l'idée que lorsque nous travaillons, nous sommes littéralement les doigts de Dieu, les agents de son amour pour tout le monde. Tu es un doigt à ton travail. Tu es le doigt de Dieu, de l'amour de Dieu, communiquer l'amour de Dieu à ces gens-là dans ton bureau. Réalise ça? Tu es le doigt de Dieu. Cette vision élève le travail. Puis il ne s'agit pas de gagner simplement notre pain, mais on veut aimer notre prochain. Puis ça enlève un gros fardeau aussi d'essayer de se prouver. Parce qu'on travaille pour le Seigneur, dans le fond, au bout du compte. Alors, premièrement, notre travail, la vision chrétienne du travail, c'est premièrement que mon travail, c'est un appel. Deuxièmement, ça plaît à Dieu. C'est tout ça, quand tu travailles, ça plaît à Dieu. Dieu t'a créé pour ça. Ça plaît à Dieu. Le travail est pour le plaisir de Dieu. Verset 16 dit, « Comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. » Notre motivation change complètement quand on réalise que quand tu fais ton travail, c'est pour le Seigneur que tu le fais. C'est la volonté de Dieu qui en soit ainsi. Ton travail lui plaît. Même avant la chute. Savez-vous que le travail, c'est pas Ça ne fait pas partie des conséquences, des jugements de Dieu, le travail. Ça existait même avant la chute. Adam et Ève là, étaient déjà au travail avant la chute. Ils étaient des jardiniers. Il fallait qu'ils travaillent la terre et tout ça. Maintenant, oui, la chute a rendu le travail plus difficile, les fruits beaucoup plus difficiles, mais le travail existait déjà avant. On va travailler. Savez-vous qu'on va travailler au ciel? Fort probablement qu'on va travailler au ciel. On a été créé pour travailler. On a été créé pour ça. Nous avons été créés pour travailler. Vous avez été créés pour faire, pour prendre soin, pour cultiver et créer. Vous avez été faits à l'image de Dieu qui aime créer. Vous avez été créés à l'image de Dieu qui aime prendre une chose et la rendre belle. Dieu est comme ça. Même s'il n'y avait pas de péché dans le monde, on serait probablement en train de travailler. Le travail est un appel et l'on travaille pour le plaisir de Dieu. En d'autres mots, tu ne travailles pas juste devant ton patron. Oui, c'est sûr que quand le patron passe, c'est un petit peu énervant. Ça dépend du patron. Moi, je me rappelle, je travaillais dans une grosse épicerie, j'étais tout jeune. C'était ma première job d'ailleurs. Je travaillais dans une épicerie. Je travaillais dans l'allée des canages. Puis, il fallait que je travaillais de nuit, puis il fallait que je remplisse les tablettes pour que le matin, quand le patron passait, ce soit les tablettes soient pleines, qu'il n'y ait pas de facing. Vous savez, ceux qui ont travaillé dans les épiceries, vous savez, c'est quoi le facing? C'est que tu triches dans le fond, tu mets des canages juste au bord de la tablette, tu as l'impression, oh, il y a tellement de stock, mais dans le fond, tu tasses la canne, puis il n'y a absolument rien derrière. Ça, c'est, le patron était fâché lorsqu'on faisait du facing. Il voulait que ça soit plein, bourré, puis tout ça. Il voulait qu'on ait fait notre travail, tu sais. Une nuit, j'avais le patron, je ne sais pas pourquoi il avait décidé cette nuit-là, il passait, puis il n'arrêtait pas de passer, puis il regardait, puis pourtant, je faisais quand même mon travail. Puis là, il était là, puis il me checkait. Puis je ne sais pas, moi, comme j'étais nerveux, j'étais jeune, c'était ma première job, je ne voulais pas me faire mettre dehors. Puis là, je ne sais pas, dans ce temps-là, moi, je travaillais, j'étais en train de mettre des prix sur les sardines. Puis les sardines, c'était, croyez-le ou non, comment ça coûte des sardines aujourd'hui, là? Hein? 5$. Tu sais, canne de sardines? Canne, là, canne de sardines. 2$, tout ça. Dans ce temps-là, croyez-le ou non. Je vais trahir mon âge. Mais dans ce temps-là, ça coûtait 21 cents. Et moi, j'avais mon affaire, mon petit le puncher, un genre de petite affaire là, pour mettre les prix. C'était pas électronique dans ce temps-là. C'était comme. Puis là, j'ouvrais la caisse, là, comme ça, puis là, j'allais. Puis là, le boss était pas loin, le patron était là. Là, fait que, là je me dépêchais, là, je faisais mon frais. Là, j'avais pas remarqué. Mais je travaillais trop vite. Puis, dans ce temps-là, ça, c'était comme des petites roulettes, là, puis c'était avec de l'angle, là, puis ça poinçonnait. Puis, au lieu de mettre 21 cents, le 2 a roulé à zéro. Donc, il y avait un gros spécial cette journée-là, sardine, une cent. Ça donnait que cette journée-là, de toutes les journées dans l'année, cette journée-là, le vice-président de Toronto est en visite, et quelle allée il décide d'observer les sardines. Le vice-président de Toronto, avec toute son équipe, regarde le prix, une scène. Est-ce que je peux vous dire, je me suis fait appeler au bureau le lendemain, j'ai été suspendu pendant quelques jours, mon patron m'a dit ceci, on voudrait que tu réfléchisses. Est-ce que tu veux vraiment travailler ici? On voudrait que tu réfléchisses, et littéralement, il m'a dit ça de même, on voudrait que tu réfléchisses sur ton avenir. J'avais compris. Tu as besoin de ne pas faire d'autres erreurs. Mais sais-tu quoi? Le Seigneur est en train de nous dire, travaille pas juste pour ton boss. Que quand ton patron est tourné de bord, la tête est tournée, là, d'un coup, c'est le free for all. On entend ça régulièrement, hein? Non, au contraire, parce que le Seigneur, lui, il est toujours là. Il voit ce que tu fais. Puis il veut voir un de ses enfants servir avec joie, avec gaieté de cœur, parce qu'il sait dans le fond de son cœur qu'il le fait pour le Seigneur. Amen. Elisabeth Elliott le dit comme ceci. Elle dit, « Les palourdes glorifient mieux Dieu que nous. » Ben oui, il a dit, car elles font exactement ce pour quoi elles ont été créées. Casse pas la tête. Elles se servent de leur capacité. Elles glorifient Dieu à être une palourde. Elles sont parfaitement ce que Dieu voulait qu'elles soient. Qu'en est-il de vous? Est-ce que tu mets tes dons et tes talents au service des autres, à ton emploi pour la gloire de Dieu? Utilisez-vous vos dons et vos capacités pour sa gloire? Êtes-vous ce que vous êtes supposé être? Regardez bien ce que Paul est en train de dire. Paul dit, la seule façon qu'un esclave, dans ce temps-là, pourrait passer à travers sa journée de regarder son maître et se dire secrètement, je ne travaille pas pour toi, je travaille pour le Seigneur. Je travaille pour le maître du ciel. C'était comme ça qu'il pourrait passer à travers sa journée, de garder cette vision dans son cœur qu'ultimement, c'est pour le Seigneur qu'on travaille. Alors, je vais faire le meilleur travail possible aujourd'hui. Je ferai tout ce que je peux, au meilleur de mes capacités, parce que je travaille pour le Seigneur lui-même. C'est de cette façon qu'on est capable de passer à travers, en travaillant avec gaieté de cœur, simplicité de cœur, avec zèle et empressement. Si on garde les yeux fixés sur le Seigneur, si on marche dans l'Esprit, on pourra faire notre travail avec cette vision-là. Sinon, le travail va juste devenir une tâche, ça va devenir lourd, puis ça va devenir tellement difficile. Gardons les yeux sur le Seigneur. Un visiteur qui passait et a vu trois hommes qui travaillaient dans la construction, qui étaient en train de bâtir quelque chose, une grande cathédrale, dans le fond. Alors, le visiteur s'est arrêté, puis il a demandé aux trois gars de construction, il a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Le premier gars de construction, il a dit, ah, je suis en train de casser des roches, des pierres. Il a demandé au deuxième, il dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, il dit, moi, je suis en train de gagner mon pain. Hein? Il a demandé au troisième, toi, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, moi, je suis en train de construire une grosse cathédrale. Vois-tu, la vision, ça change tout. Et ce que le Seigneur est en train de nous demander, c'est travailler avec cette vision-là que tu es en train de construire le royaume de Dieu. Amen. Comment cette vision du travail va changer mon day-to-day? Ça va changer mon cœur, mon attitude, et je vais pouvoir travailler avec zèle, avec gaieté de cœur, parce que je sais que je suis en train de travailler pour le Seigneur. Non seulement c'est un appel, mon travail. Non seulement ça plaît à Dieu de me voir travailler parce qu'il m'a créé pour ça. Mais troisièmement, sais-tu que le travail que tu fais va être un jour récompensé? Et c'est ce que ça dit au verset 8. Ça dit, « Chacun recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Aïe, aïe, aïe. La Bible enseigne que Dieu récompense bel et bien les œuvres des croyants. Pour les encourager à persévérer dans la sainteté, la fidélité, sachant que Dieu, qui les aime, les voit et connaît toutes les choses, toutes les heures que tu passes à faire d'overtime ou tu es tout seul encore au bureau pendant que tout le monde est parti. Dieu est là avec toi puis il le voit. Matthieu 5 dit ceci, « Heureux serez-vous. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement, de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Chers amis, travaillons pour le Seigneur. Gardons cette vision. On n'est pas en train de gâcher notre vie, mais plutôt on est en train de l'investir et on sera récompensé pour ça. On est déjà béni. On est déjà béni. Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus, on est déjà saints, bénis, appréciés, sauvés, réconciliés, encouragés, entendus, doués, nouveaux, pardonnés, adoptés, habilités par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes aimés et nous sommes récompensés. Amen. Travaillons pour le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bonne parole, c'est édifiante, inspirante et encourageante. Merci de nous donner cette vision de la famille. Et on te prie, par ton aide, que ton esprit nous aide à être des bons papas, des bonnes mères. Nos enfants ont besoin, Seigneur, de cette direction. Aide-nous à pouvoir avoir un beau foyer chrétien, où l'Évangile est à l'honneur. Aide-nous comme employés aussi, même comme employeurs, comme on voit dans le passage où tu dis aux employeurs comment bien traiter les employés, d'être généreux avec les employés, bien les traiter. Seigneur, on te prie que tu nous aides à être de meilleurs employés, de meilleurs employeurs, sachant que tu nous as confié cet appel, que tu te plais à nous voir travailler, qu'un jour nous serons récompensés pour tout le bien que nous aurons fait. Merci Seigneur pour ta bonté, au nom de Jésus. Amen.